Il n'y a pas de test micro là, tout va bien.
Porto, ouvre les yeux, c'est l'heure.
Bah je suis là, j'ai la pêche. Bienvenue dans la matinale de Bartas.
Un max de local et un peu d'autre chose. Les bonnes ondes sont sur le 107 FM.
Décollage immédiat
pour les matinales de Bartas. T'as tes lunettes, bordel.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes le mercredi 2 novembre et il est 8h30, quel plaisir de vous retrouver après ce week-end, la fête de la soupe, et oui, nous avons fait aussi l'inauguration du fournil associatif et collaboratif et communal à Vébron, au Vanel, c'était absolument génial, bravo à eux qui ont réussi à concrétiser ce projet. Au programme de cette matinale, nous sommes avec Ralph, bonjour.
Bonjour.
Ralph, ça va être un exercice ce matin, puisque... voilà, je vais dire ton nom, Ralph Hassenflug.
C'est à peu près ça, oui.
Je me suis dit, voilà, il faut des petits challenges comme ça.
Voilà.
Tu es photographe et ça va être un autre défi, puisqu'on va parler de photographie à la radio, de ton excellent travail. Je suis allé voir ton site, c'est absolument...
Oui, la photographie à la radio, c'est pas évident, non?
C'est pas évident, mais ça va être absolument génial. Je suis sûr qu'on va réussir à faire quelque chose de bien. Ça
bon,
bah,
allons-y alors.
Et je crois rêver, je rêve. Alors, je me pince là, auditeur, auditrice, je me pince. Il est de retour, ça me fait plaisir. Il travaillait deux heures par jour depuis la rentrée. Alors du coup, il n'avait plus le temps de venir. Salut Raphaël.
Oui, bonjour à tous.
Monsieur Couder, de quoi on parle dans Histoire Brève tout à l'heure?
Mais aujourd'hui, on va parler de poésie. On va parler en alexandrin.
En alexandrin. Ça va me faire marrer. Dis-moi, on refait un clin d'œil à l'histoire quand tu veux. Hein.
Oui, bah, d'ici l'année prochaine, je pense qu'on arrivera à caler ça.
Ouais, ça serait bien, on croise les doigts en tout cas. Et ben, la dernière partie de cette émission sera consacrée à un spectacle que j'avais vu cet été qui s'appelle Famo Volant, par la compagnie B-Side, excellent spectacle, j'en ai fait un petit reportage, ce sera tout à l'heure. Il y aura de la musique comme d'hab, et si tout va bien, oui, tout va bien se passer, on y va pour l'édito, c'est parti.
On peut être en désaccord, mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Fini la polémique, place au jeu. Alors, je vais vous le dire, auditeur, auditrice, bien que je ne parle jamais de moi sur cette antenne, j'adore le foot. C'est comme ça, je m'en cache pas, ce jeu me passionne. Et même si je ne regarde pas tous les matchs, je me pose de temps en temps pour regarder Lille jouer, mon équipe de cœur que mon père m'a emmené voir quand j'étais gosse. J'avais 14 ans en 98 et j'ai eu, comme beaucoup, les yeux brillants lorsque Zidane mit ses deux buts de la tête et levait les bras en l'air. Quand Emmanuel Petit finissait le travail et offrait à la France un magnifique 3-0 et la Coupe du Monde à la France. Fini la polémique, place au jeu. Mais quelle polémique ! Plus de 6000 morts et des milliers d'autres travailleurs réduits en esclavage pour construire ces stades au Qatar qui vont accueillir l'édition 2022 de la Coupe du Monde. La Coupe Jules Rimet, nom du trophée, est entachée de sang aujourd'hui. Quelle polémique ! 6000 morts pour construire 8 stades climatisés, aberrations écologiques qui vont permettre à quelques centaines de personnes de tirer dans un ballon. C'est qu'il est de bon ton de rafraîchir l'air du désert et qu'il ne faut pas qu'il y ait trop chaud. Les férus de ballon rond. Quelle polémique ! L'interdiction pour la communauté LGBTQIA+, de se montrer, de s'affirmer, interdit au Qatar d'être différent, de ne pas penser comme eux et de ne pas aimer comme eux. Savent-ils seulement ce que veut dire ces mots, aimer ? Fin de la polémique, place au jeu. Et mes rêves de gosse s'effondrent lorsque celui qui a prononcé ces 7 petits mots n'est autre que Zinedine Zidane. Mon cœur se fend, et oui, monsieur Zidane, place à la polémique, car c'est loin d'être un jeu. Il y en a marre.
En même temps que nos impôts, vous pouvez préparer vos bières. Un jour, vous n'aurez que la peau, messieurs les mecs des ministères. Et on a marre. En même temps que nos chagrins, vous pouvez préparer vos larmes. Un jour nous ferons notre pain dans vos pétrins avec nos armes. Et on a marre. En même temps que nos frangins qui se préparent dans le monde à réviser tous vos machins, nous autres on compte vos secondes. Et on a marre. Et on a marre. Il y a quelque temps, Christophe Colomb, croyant découvrir l'Amérique, avait couvert le coton des blancs jouant avec la trique. Et on a marre. Il y a
quelque temps, Monsieur Franco, à peu près autant des cerises, a descendu tous les oiseaux qui chantaient la terre promise. Et en la mort, Monsieur Einstein, loin des canons, croyant travailler pour lui seul, a découvert les équations qui vont nous tomber sur la gueule. Et en la mort, et en la mort. Qu'est-ce qu'elle vous a donc fait la lune pour vouloir lui refiler vos puces? La vie est courte, il n'y en a qu'une, qu'on soit ricain ou qu'on soit russe. Et en la mort, qu'est-ce que vous en faites les étoiles pour vouloir leur filer des niches? D'ailleurs, au train où elles cavalent, faudrait peut-être consulter vos fiches. Et en la mort, qu'est-ce qu'ils vous ont donc fait les hommes pour vouloir leur filer la cerise? C'était des pois ou bien des pommes, mais laissez-leur au moins la chemise. Et on a marre, et on a marre. Oh oui, on mange et puis on meurt. Vous ne trouvez pas que c'est charmant, que ça suffit à notre bonheur et à tous nos emmerdements? Paris à Rio, qu'on soit enceinte ou bien en carte, qu'on se fasse dans un plein fatio, la société c'est pas de la tarte. Et on a marre, mais peut-être qu'un jour le crucifié lâchera ses clous et ses épines, sa rédemption et tout le paquet, et viendra gueuler dans nos ruines. Et on a marre, et on a marre.
Louisville, y en a marre. Allez, on va parler de choses bien plus réjouissantes que de la Coupe du Monde enfin, au Qatar. Bon, bref, voilà, c'est la vie. Hein. Après, il y en a. Je ne juge pas ceux qui vont la regarder, évidemment. Et vous êtes bien sur Radio Bartas et nous sommes en direct avec Ralph. Ralph, tu es photographe. Et quelle photo, d'ailleurs. Je suis allé voir ton site, c'est absolument magnifique. On va en parler.
Merci.
Commençons simplement par le début. Quelle est la première photo que tu aies vue, celle dont tu te souviens et qui t'a touché?
Ben, je ne saurais pas dire exactement, mais des photos qui m'ont vraiment fasciné, c'est des photos de d'un mec qui s'appelle Alfred Stieglitz. Je ne sais pas si tu le connais.
Absolument pas.
C'est un photographe new-yorkais d'origine allemande qui a photographié sa compagne Georgia O'Keeffe, une peintre américaine. Ça m'a frappé comme sa photographie était poétique. Et j'ai pensé, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui me touche vraiment au cœur, tu vois. Et je crois que c'est ça qui m'a inspiré le plus dans le genre photographie.
Comment on devient photographe ?
Faut avoir des yeux, faut voir, faut ressentir les choses et les gens. Je pense que c'est tout ce qui est requis. C'est pas une question de matériel, c'est pas une question de technique. C'est une question de cœur. Et évidemment, je parle de la photographie artistique. Je ne parle pas de la photographie documentaire. Ou, tu vois, ce sont des trucs complètement différents, à mon avis.
C'est ça, parce que toi, quand on va sur ton site, hein, on voit un peu ton travail. Tu travailles beaucoup en noir et blanc
Presque exclusivement, oui. Il y a peut-être 5% de mes photos qui sont en couleur.
Ou en tout cas, avec des touches jaunâtres de temps en temps. Pourquoi tu as choisi de travailler en noir et blanc?
Parce que c'est difficile à décrire, mais je crois que il y a un photographe américain qui a dit que si tu photographies les gens en couleur, tu photographies leurs fringues, et si tu les photographies en noir et blanc, tu photographies leur âme. Et il y a une vérité là-dedans. C'est je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Mais je peux te dire que c'est vraiment le cas. Ça te donne une dimension supplémentaire dans le sujet. Ce qui est un peu... Ça ne semble pas très logique, mais en fait, ça marche.
En fait, c'est comme... C'est ça, sortir un peu, s'extirper de la réalité, c'est ça ?
C'est ça, oui, c'est une réalité imaginaire, une réalité différente que ce qu'on perçoit comme ça. C'est une dimension autre.
Autre. Je vois tout à fait ce que tu veux dire, puisque vraiment ton travail le reflète bien. C'est quoi une photo réussie pour toi ?
Une photo qui parle. Une photo qui raconte une histoire, une photo qui pourrait être le début ou la fin d'une histoire qu'on peut se raconter soi-même. Parce que je crois que, tu vois, quand on regarde une photo qui nous touche d'une façon ou d'une autre, c'est parce qu'on y apporte quelque chose de soi-même. Si tu vois une photo que je décrirais comme réussie, c'est parce que ça te rappelle quelque chose dont tu avais oublié que tu le savais. Ça paraît pas très clair, mais c'est tout ce que je peux dire.
J'ai compris. alors justement, est-ce que tu fais partie de ces photographes qui vont rester posés pendant une heure, deux heures, trois heures pour avoir la bonne lumière, le bon moment, ou alors est-ce que tu fais entre guillemets ta mise en scène avant, tu l'as réfléchi avant ta photo? Comment tu travailles en fait simplement?
La mise en scène, j'en fais pas beaucoup. J'en fais des fois quand je travaille avec ma compagne et ma muse Magdala. Mais tu vois, normalement, c'est que je me balade en voiture ou à pied. Je vois quelque chose qui me frappe. Des fois, je ne saurais même pas dire exactement pourquoi. Tu vois, c'est pas très tout ça n'est pas très logique. C'est il y a un moment où il faut que je prenne la photo, quoi. Et après, quand je travaille la photo, parce que il y a beaucoup de ça dans ce que je fais, c'est pas juste le matériel visible à ce moment-là qui est important, mais ce que je ressens en le voyant. Ensuite, j'essaie de développer et d'éditer la photo de façon à ce que ça ressemble à ce que je vois moi.
Ok. Donc, effectivement, il y a la prise de vue que tu vas faire et quoi, tu vas la retoucher sur informatique, etc. La retravailler.
C'est ça. Oui, je photographie comme un documentaire, tu vois, mais j'édite comme un peintre.
Ouais, comme un peintre. Et effectivement, c'est exactement ce qu'on ressent. Quand on voit ton travail, je sais pas, alors comme j'y connais rien en photo et que tu es là pour apprendre, il y a des photos sur lesquelles il y a une espèce de flou artistique qui est voulu. Ça, tu le décides avant ou c'est au moment où tu te dis, tiens, au moment de la retouche, que tu vas te dire, tiens, bah, là, je vais un peu la flouter en fait pour qu'elle.
Surtout au moment de la retouche, oui. C'est une façon de donner de l'emphase, c'est un mot français ça ?
C'est l'emphase.
De donner de l'emphase à certains aspects de la photo. Mm-hmm. Tu vois, il faut réaliser aussi que c'est vraiment la façon dont on voit nous, êtres humains. Mm-hmm. Tu vois, que si je te regarde là, bon, ton visage m'apparaît focalisé. Mais tout le reste est un peu c'est là, mais c'est pas là, tu vois. Donc c'est comme ça que je crois que c'est une façon naturelle de voir. Ça imite un peu notre façon naturelle de voir les choses.
C'est quoi, parce que bon, tu parlais de ta compagne Magdala tout à l'heure, dont on dira un mot hein, sur ses textes, parce qu'elle a écrit des textes, entre autres, sur tes poésies, et elle est un peu aussi ta muse, ton modèle. C'est quoi être un bon modèle pour un photographe ? D'ailleurs, existe-t-il un bon modèle ou alors tout le monde peut être modèle ?
Tu sais, les photos qu'on fait ensemble, ce sont définitivement des co-créations. Donc, ça ne se fait pas avec n'importe qui. Je crois que le rôle de la muse est très important dans l'art, tu vois. Je ne pourrais probablement pas travailler avec n'importe quel modèle. Ce serait beaucoup plus difficile, le résultat serait complètement différent. C'est juste, la co-création, ça apporte quelque chose de vraiment important à la photo, à la peinture aussi d'ailleurs.
C'est vrai. Justement, donc Magdala est poète. Elle écrit sur tes photos. Est-ce que tu parles avec elle de l'émotion que t'as envie que la photo retranscrive, ou alors tu lui laisses libre cours à son imagination et
La plupart du temps, je la suis, tu vois, on est dans l'ambiance de faire quelque chose ensemble, de faire du beau travail, et puis c'est plus ou moins, tu vois, on commence dans un lieu, et je la suis avec la caméra, je ne lui donne presque pas de direction. Des fois, je dirais quelque chose comme « bouge plus », tu vois, mais je ne lui dis pas « fais ci, fais là », c'est ça se fait simplement comme ça, parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble.
Surtout quand elle écrit aussi, alors du coup, tu lui dis « vas-y,
oui,
laisse les recours ».
Bien sûr.
Et comment, alors, question que je me pose, qui est un peu subsidiaire, comment on fixe le prix d'une photo? Comment tu fixes le prix de ton travail?
Bah, comme tous les prix se fixent, il y a des gens qui ont la volonté d'acheter quelque chose à un certain prix, qui me convient à moi aussi, et voilà, le marché est conclu. C'est comme ça que les prix se font. Il y a un vendeur et un acheteur, et on se met d'accord sur un prix, quoi.
À l'heure de l'image qu'on a partout, qu'on voit tout le temps, les smartphones, etc., est-ce que justement ces images prises par téléphone, est-ce que toi t'en prends d'ailleurs, ou alors est-ce que tu travailles quand même avec un bel appareil photo ?
Bah oui, je travaille avec des beaux appareils des beaux appareils photo, mais je travaille surtout avec mon téléphone ces jours-ci, tout simplement dû au fait que je l'ai toujours sur moi, tu vois. Au lieu de trimballer une grosse caméra tout le temps, c'est pas évident, quoi. Et très souvent je prends des photos avec le téléphone. C'est les caméras de téléphone maintenant, c'est presque tout aussi bien qu'une caméra très élaborée de Nikon, Canon, je sais pas quoi, tu vois, ça se vaut maintenant.
Est-ce que l'argentique te manque parfois, et est-ce que t'en fais encore?
Non, je n'en fais plus. J'ai fait beaucoup de processus alternatifs, tu vois, comme des tirages au palladium, au sélénium, des machins comme ça, avec des métaux lourds. C'est toxique, tu vois, ouais. c'est dégueulasse. Faut toujours faire attention à ce que tu touches, et c'est pas évident. Moi, surtout que le digital te donne tellement de possibilités. Tu peux quasiment imiter tout ce que tu peux faire en analogue, et c'est plus propre, tu vois. Et j'aime travailler avec le numérique. Ça donne énormément de possibilités.
Comment tu définirais ton travail? Si tant est qu'il y ait une définition, hein.
Ben, je sais pas, tu sais, j'ai toujours un peu de difficulté de parler de ma photographie. C'est pas évident, tu vois. Si j'étais à l'aise avec les mots, vraiment, je serais peut-être devenu écrivain. Mais comme je ne le suis pas toujours, je suis photographe. Je pense en images. Ta question, c'était quoi?
Je sais pas, j'étais pas pendu à tes lèvres, et du coup, comment tu définirais ton travail?
C'est de la photographie poétique. J'essaie de montrer des réalités imaginaires, tu vois.
Et ça marche bien, hein. Vraiment, en tout cas, ça nous emmène tout à fait. Quelle est la photo que tu as préféré prendre?
Mais je sais pas, j'en ai des milliers, tu vois, et ça change. Très souvent, ma relation avec une photo particulière que j'ai prise, ça change à travers le temps, tu vois. Je la prends aujourd'hui, je l'adore, demain je me demande à quoi ça rime. Dans une semaine, c'est peut-être de retour dans ma collection, tu vois. Ce sont des relations qui changent.
Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la photographie?
De prendre des images. d'essayer de vraiment voir, tu vois, et de réfléchir quel genre de... Parce qu'on n'est pas tous pareils, tu vois. Nous sommes tous des individus, on a des perceptions très différentes, on a des préoccupations très différentes aussi. Et un truc qui est vraiment important, à mon avis, c'est que ce que tu fais comme travail, que ça coïncide avec qui tu es.
Avec ta personnalité.
Voilà.
Une espèce de... Bah, pas se mentir, en fait.
Ouais.
Ouais, ça marche bien. Et justement, est-ce que quand tu as vendu une photo... Alors, c'est cool parce que toi, tu peux la garder dans tes archives et la ressortir pour toi, mais est-ce que justement tu le fais, ou alors est-ce que tu dis non, c'était un tirage unique et c'est très bien comme ça?
Bah, je fais des fois des tirages numérotés, des tirages limités.
Ouais.
Ça veut dire, bon, bah, y en a une dizaine ou une vingtaine, peut-être, ça dépend. Et après ça, c'est fini, y en aura pas d'autres.
Est-ce que c'est toi qui démarches les gens pour aller exposer bon, ici, dans les Cévennes, t'as exposé à la Ronceret il y a quelques temps. Est-ce que c'est toi qui démarches, ou alors est-ce qu'on t'appelle Comment ça se passe?
Bah, la plupart du temps, on m'appelle et puis voilà, ça se fait comme ça. On aura, je pense, quelques expos à Arles l'année prochaine dans le cadre des rencontres d'Arles, les rencontres photographiques d'Arles. Et ça varie, quoi. Il y a des fois des galeries que j'aime vraiment bien, tu vois, je vais peut-être les approcher moi-même. Et puis mais la sélection elle est dure, quoi. Tu vois, c'est pas évident c'est pas juste le fait d'aimer une galerie qui va te donner une place dans la galerie, quoi.
Ouais, c'est le fait que le galériste aime ton travail et donc décide de t'exposer. Ou alors c'est des locations, parfois il y a des locations, non?
Ça existe, oui, mais tu sais, la plupart du temps, les galéristes, il faut vraiment pas les glorifier. La plupart du temps, leur seule réflexion, c'est qu'est-ce qui se vend,
ouais.
Tu vois, et qu'est-ce que je peux faire comme pourcentage. Malheureusement, c'est ça le monde de l'art, pas seulement en photographie. C'est la même chose pour la peinture. Je suppose que les écrivains, c'est la même chose, tu vois. C'est pas forcément parce que t'as vraiment parce que t'as écrit un livre qui est vraiment bien, tu vois, que tu vois qui va être édité. Les éditeurs aussi, ils vendent, ils acceptent ce qui, à leur avis, peut se vendre.
Ouais.
Tu vois, c'est des entreprises commerciales, quoi.
Et puis, rémunère à 10% du prix de vente hors taxe ce livre, tu vois.
C'est ça, oui.
Est-ce que tu parlais des rencontres photos à Arles? Quels sont les échanges que vous avez entre vous, photographes? Est-ce que vous partagez votre travail? Est-ce que ça parle technique, ou alors ça parle ressenti, quand même?
Je ne connais pas de photographes avec lesquels je parle technique, parce que la technique est vraiment pas... Elle n'est pas très importante. Tu vois. Pour moi, la technique, bon, bah... n'importe quel appareil va faire l'affaire, tu vois, ou alors le téléphone, comme on disait tout à l'heure. La technique, c'est, à mon avis, c'est vraiment secondaire. Tu vois, la technique devient importante quand tu fais de la photographie de sport, par exemple. Parce que là, il faut vraiment faire certains trucs techniques. Sans ça, ça va pas réussir. Mais du moment que tu es libre de photographier ce que tu veux photographier, la technique, c'est vraiment secondaire, quoi.
Donc vous parlez plus ressenti, si t'aimes ou pas un travail d'un de tes collègues.
C'est ça, oui. Oui.
Et justement, est-ce que c'est facile de vivre de la photo?
Oui. Oui, c'est facile émotionnellement, mais financièrement, c'est une catastrophe.
Parfois, on peut vivre d'amour et d'eau fraîche.
C'est ça, oui.
Et pour finir, la dernière question, c'est juste, je me dis, quand tu as pris une photo, est-ce que ça t'est déjà arrivé de regretter de l'avoir prise?
Non. Non, à quoi tu penses là?
Je sais pas, je me dis, est-ce que j'ai pris cette photo là et en fait tu me diras au numérique, tu peux l'effacer et t'en prends une autre, quoi, en fait. Mais ça t'est jamais arrivé?
Ah bah oui, mais ça n'a rien à voir avec des regrets. Je prends des mauvaises photos, bien sûr. Et puis on les revoit pas, quoi. C'est... ni vu ni connu.
Ce qui rassure, c'est que même un photographe professionnel peut prendre des mauvaises photos.
Bah, bien sûr.
Mais les tiennes sont absolument extraordinaires. Auditeurs, auditrices, allez sur le site de Ralph. Je vais mettre le lien dans un instant, puisque l'exercice, c'est ralphassenplug.com. J'y suis.
Oui.
En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler photo.
Eh ben, c'est moi qui te remercie.
Et puis, j'espère qu'on pourra te revoir un peu. T'as prévu, donc là, tu vas à Arles l'année prochaine, mais t'as prévu une expo dans les Cévennes prochainement ?
Non, rien de particulier là pour l'instant.
Bon, Nausicaa, si tu veux réexposer à la ronceret les photos de Ralph, ce serait cool.
Ouais, bien sûr.
Allez, le message est passé, Nausicaa, on t'embrasse. Merci beaucoup, Ralph.
Merci à toi.
Raph, j'ai pas mis de L, t'as vu ? T'es chaud ?
Oui, oui, comme toujours. Ouais.
Allez, on y va, histoire brève. Ah bah non !
Si tu fais pas l'histoire, c'est pas l'histoire qui va te faire.
Hein ?
Histoire brève, histoire brève.
Tu vois, j'étais même plus du tout habitué à ce que tu viennes, du coup j'ai failli chanter ton générique, c'est fou.
Ça aurait été beau aussi. Hein.
Allez, on t'écoute.
Qu'il est difficile de garder vos grâces tant vous êtes vexés quand on lâche ici des vérités sur vous, dans ce grand palace où vous, sire, vivez et passez jours et nuits, inepties et fadaises, sur Radio Bartas.
Merci.
Vous m'invitez encore malgré tout votre mépris. Je dois donc rester grand et me montrer digne de ce que j'oserais comme nommer la flatterie et que vous me fîtes et qui égratigne l'éternelle idée que je suis un pourri. Et que vous essayez si inlassablement partout de diffuser afin de parvenir à cette mon talent et principalement auprès du ministère qui devra se saisir dans mon cap pour régler mon destin avec eux. Et vous, félon, pourrez à mon corps défendant m'imposer d'entrer comme allume-feu dans le 107FM où laborieusement vous animez pourtant avec vitalité cette matinale 2 jours par semaine. Mmh. Vous m'avez donc hier encore contacté pour que j'intervienne, pas pour un VPN, mais une chronique qui parle poème. Traître, sans le dire, vous m'obligez encore à écrire en rime, chercher des thèmes, figures de style, ou chercher chez Victor, parmi ces centaines de vers et de sonnets, l'inspiration suprême qui clouera votre bec. Eh bien, j'ai décidé de tout vous annoncer, plusieurs alexandrins qui valent pas un copec. Merci, mais d'après vous, d'où vient cette étrange manie d'écrire 12 pieds et des rimes croisées, avec au milieu du vers cette envie de mettre une césure comme un corset, contraint le poète à tenir un rythme si beau à l'oreille qui paraîtrait fluide, voire naturel en fait, de parler en rime. À quand peut remonter, peut-être aux Ides ou même aux Calendes, ce style poétique ? Le premier date du XIIe siècle. Vous dites connaisseur comme Saint-Dominique. Mmh. Lambert de Thore écrit alors tel un cycle, roman d'Alexandre, sur ce grand conquérant, parti de Macédoine envahir la Perse, moins 300 de notre ère, il conquit tout l'Orient. C'est un peu comme vous, Monseigneur Lapéresse, qui, sans aucune armée, avait pris les ondes. Lui et tous ses hommes, avec grand courage, sont partis à l'assaut pour saisir le monde. Ses vers de 12 pieds et son hémistiche ont beaucoup inspiré auteurs de tous âges. Dans l'art poétique, où beaucoup de fiches écrites par Boileau durant le XVIe, il formule ce style, ces quelques mots en rime. Que toujours dans nos vers, le sens coupant les mots, suspende l'hémistiche en marque de repos. Tous les plus grands poètes et même les auteurs, citons ici Molière, écrivent dans leurs œuvres moult alexandrins et ces grands n'ont pas peur de suivre ce credo et en garnissent leurs livres. De milliers de lignes en dodécasyllabes, et voilà mon très cher, cette mission accomplie, comme disait votre père quand vous mettiez la table, purée c'est pas trop tôt, mais c'est l'après-midi.
Merci Raphaël! Quel talent! Tiens, moi j'en ai un pour toi. Prolifique vacances, revenez en novembre.
Je sais pas, on verra bien, cher ami.
Ouais, mais si jamais t'arrives à te débarrasser de ton travail de prof, quoi.
Oui, mais ça devrait bien pas tarder, normalement. Grâce à vous, hein, en partie.
Merci beaucoup. Eh ben, on continue cette matinale, tranquillement. Tiens, je remonte ce niveau ici à son niveau et on écoute Michel Berger. Diego, parce que je l'avais dans la tête ce matin en levant, tout simplement.
Derrière les barreaux, pour quelques mots qu'il pensait si fort. Dehors, fait chaud. Des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. Mais quel est ce pays où frappe la nuit la loi du plus fort? Diego, libre dans sa terre, derrière sa fenêtre, s'endort peut-être.
Michel Berger, il y a quelques semaines, c'était le Marvelose à Marvejols et j'étais allé voir un spectacle qui s'appelle Femme au volant. J'en ai fait un reportage. Excellent spectacle, je vous le conseille si vous avez l'occasion de le voir passer, en espérant qu'il repasse du côté de Florac, pourquoi pas l'été prochain.
Pour la compagnie B-Side.
Moi c'est Camille.
Flora.
Alors, commençons par le début. Avant de parler de ce spectacle absolument incroyable, je vais essayer de me remettre de mes émotions aussi, parce que je ne sais pas ce que vous avez ressenti, mais la compagnie B-Side, elle s'est créée quand? Elle vient d'où? C'est quoi?
Avec Camille, on a fait une école aux Pays-Bas qui s'appelle ACAPA, à Tilburg, pendant 4 ans. Et du coup, à la fin de cette école, on a fondé une compagnie avec 6 autres. Enfin, on était 6 en tout. On a cofondé la B-Side Company et on a écrit un spectacle qu'on a joué et ça a super bien marché. On savait pas du tout si ça allait continuer cette compagnie et au final ça a très bien marché et du coup les spectacles se sont multipliés. On a beaucoup de spectacles dans la compagnie différents.
On vient au spectacle qu'on vient de voir là, que je viens de voir, qui met une claque. Clairement, je pense qu'on ressort pas pareil à la fin. Alors normalement, je devrais pas donner mon avis en tant que journaliste, je dois être très objectif. Vous me pardonnerez, je vais un peu galérer peut-être, auditeurs, auditrices, eux qui me connaissent en plus, ils vont se dire « Oh bah non, ils vont bien ». Femme au volant. Voilà le spectacle dont on sort avec une espèce de structure qui fait combien?
8 mètres.
8 mètres de haut. Bon, il n'y a pas que ça parce que c'est du porté, c'est du texte, il y a de la profondeur. Enfin, normalement, on pourrait s'attendre juste à voir un petit truc de porté. Voilà, on fait zoom, zoom, zoom sur le trapèze et on s'éclate. Femme au volant est un spectacle super engagé, on va en parler, mais avant tout, d'où est venue l'idée?
Alors c'est venu donc aussi, il y avait donc Ben, l'autre Ben qui était à la régie, tous les trois, et qui était mon prof de cirque il y a longtemps quand j'étais en école amateur, qui m'avait proposé de faire une autre forme qui n'avait pas de rapport avec ça, sauf que moi je fais du trapèze-ballon, donc j'ai besoin de quelqu'un à la longe, je suis en sécurité. Donc j'ai demandé à Flora si elle était dispo, si elle avait envie de faire un spectacle avec nous. Et puis, sauf que les idées que Ben avait de base ne marchaient pas pour ce truc à deux qu'on était en train de créer. Du coup, on a beaucoup discuté, on avait plein d'envies, et puis c'est quand même Ben pas mal qui nous a poussé sur, en fait, à force d'écouter nos discussions, et il était avec nous dans les discussions, mais voilà, à force d'entendre ce qu'on avait envie de dire et tout, et il nous a dit à un moment donné, mais vous voulez pas parler de vous voulez pas parler des femmes, mais de vous, quoi. Et donc il nous a aiguillé là-dedans, et puis en fait après quand on a été lancé, on a cherché
les clichés, les choses qui nous énervait, tout ça. On a lu plein de livres et après, ça nous a beaucoup inspiré.
Vous avez fait un brainstorming, du coup, en vous disant il va falloir traiter de ça, 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 donc la charge mentale des femmes, etc. Un peu comment ça s'est passé, comment ça s'est écrit un spectacle comme Femme au volant?
C'était dur au début de trouver comment... Enfin, je me souviens de ce truc de chercher... Parce qu'on veut dire beaucoup de choses, mais en même temps, on ne peut pas, en un seul spectacle, parler de tout. Et en même temps, comment être suffisamment pas trop vague Et sans oublier trop de choses. C'est vrai que je sais pas comment on a...
Ouais, c'est difficile d'expliquer comment ça... On a j'ai vraiment un souvenir où on a cherché les clichés autour de la femme, beaucoup, qui est le début du spectacle, en fait. Ouais. Et un peu, qu'on voulait casser, les choses qui nous allaient pas.
Et puis on est aussi passé par le corps. Enfin, je me dis qu'on est aussi passé par... parce que du coup, il y a ce que tu parles, et puis après, il y a ce que tu fais. Parce qu'il y a aussi plein d'idées qu'on a eues, puis qu'en fait, après, ça fonctionne pas quand tu les essayes.
Camille, elle faisait du ballon, et Ben a dit, vas-y, essaye de dire des phrases méga clichés qu'on entend. Enfin, voilà, des...
Oui, puis je pense même aux talons, ce qu'on appelle les portées libérées, qui est une séquence qui s'est transformée, enfin, qui n'a plus de rapport avec ce qu'on s'était dit de base, mais ça venait un peu des contraintes, les contraintes de la jupe, etc. Oui, enfin, ça, c'était pour s'amuser sur corporellement, quoi faire, quoi.
Qu'est-ce qu'on peut faire avec des talons hauts en portée
ouais, vous êtes complètement taré. Hein. Pardon, mais c'est vrai que quand on voit ces portées avec des talons, donc il faut bien. Alors à la radio, c'est pas facile, mais s'imaginer des portées. Et justement, vous faites intervenir Martin dans le spectacle pour le coup. Martin qui débarque pour vous filer un petit coup de main parce que quand même c'est casse-gueule. Vous avez jamais peur?
Non,
ça va.
Bah, moi je faisais des portées acrobatiques, enfin je suis voltigeuse en main à main, et du coup on s'est entraîné pour ne pas avoir peur, en gros.
Oui.
Est-ce que finalement, pour revenir au propos de ce que vous faites, femme au volant, est-ce que quand même on va dans le bon sens, ou alors finalement votre spectacle vous le jouerez encore et encore dans 50 ans?
C'est marrant, il y a des jours je me dis on va dans le bon sens, et des jours je me dis ah non, ça va pas du tout. Mais vraiment, quand je fréquente des ados, je vois qu'elles sont très alertes sur plein de choses, elles parlent vraiment de leurs règles hyper ouvertement, de plein de choses j'ai pensé à ça à 20-25 ans, quoi. Donc sur ça, je me dis que ça a vachement avancé.
Et en même temps, quand on joue au collège et que, que t'as la réaction, enfin.
Et par contre, quand on joue dans un collège et que les enfants répondent femme au volant, mort au tournant, on se dit bon, voilà.
Votre spectacle, du coup, se termine quasiment comme ça, si mon souvenir est bon. C'était il y a une heure, mais tellement que de chercher d'autres rythmes.
Oui,
quand même.
Oui.
Alors, oui. C'est le but. Et finalement, quand t'es là-haut, et que t'envoies toutes ces phrases, etc., est-ce que l'écriture a été faite, que toi t'assistes, hein? Enfin, soyons clairs. Enfin, je sais pas comment expliquer visuellement ce qu'on a vu, mais les phrases que tu as choisies et que tu te dis au moment de la cascade, est-ce que la phrase va avec la cascade, ou est-ce que il y a une part d'impro?
Non, c'est pas de l'impro, c'est tout écrit. Et la plupart, c'est écrit. J'ai mon langage technique qui est les figures entre guillemets que je peux faire, et après on a cherché aussi des phrases, et après selon les phrases et selon la technique que j'avais envie de mettre, j'ai choisi pour ce qui va ensemble ou ce qui passe bien, ou voilà. Il y en a la plupart sont... il y a des petits liens, mais il y en a certainement, il n'y a que moi qui vois des liens, quoi, des fois.
Non, mais tout est écrit, en tout cas. Enfin, par exemple, quand elle parle des enfants, elle tape sur son ventre. Enfin, il y a des petits trucs...
Ce qui peut être improvisé, c'est si je loupe.
si elle se trompe de phrase, ouais. Ce qui est arrivé.
Est-ce que tu entends les gens là-haut sur le trapèze?
Oui.
Ça fait quoi, donc, parce qu'il faut être super concentré, même si alors il y a attaché. Moi, c'est la phrase la plus drôle. Mais ça fait quoi? Est-ce que ça te fait rire? Est-ce que ça te touche? Est-ce que ça te gêne dans la concentration?
Ça va. J'essaye d'être dans mon personnage de ce moment-là. Donc j'entends, mais ça me... Je dirais pas que ça me touche pas, ça. Si, ça peut me faire rire intérieurement. Typiquement, ce genre de phrase, ça me fait rire intérieurement, mais du coup, j'essaye de rester dans le perso que je suis. Donc, je suis assez fière et imposée en posante là-dessus. Donc, non, ça, normalement, ça me perturbe pas trop.
Alors, vous prenez le petit manuel des femmes des années 50 qui est marrant, qui te calme, toi, dans le personnage. Alors, aujourd'hui, on en rit. Ça a été quelque chose qui a existé. quand même se dire, est-ce que aujourd'hui il y a des personnes quand vous voyez qui viennent vous parler là, à la fin, qui vous disent on savait même pas que ça existait, et c'est encore parfois comme ça pour des hommes de voir la femme comme ça, comment vous voyez le délire aujourd'hui?
J'ai pas l'impression qu'il y ait des gens qui viennent nous dire je fais comme ça, on fait comme ça à la maison, tu vois. Mais
non, ça c'est.
Mais par contre, on voit des gens qui font comme ça à la maison. Même si c'était un manuel des années 50, moi je connais des couples où ça fonctionne comme ça sans qu'on le dise, mais voilà, c'est la femme qui fait tout. Hein.
Pareil pour toi, du coup, est-ce que tu penses qu'on est dans le bon ton en fait aujourd'hui et que ce genre de manuel.
Alors nous, on va dire qu'on fait quand même une bonne exagération, on fait un peu un détournement des phrases, c'était quand même pas écrit comme ça, voilà, mais j'ai. En fait, c'est encore. Tout ce qu'on dit, nous, on va beaucoup dans les clichés, surtout au début, c'est tout un peu d'une espèce de truc un peu extrême, un peu plus. Mais en fait, on est juste un poil au-dessus de la vérité, et il y a quand même cette vérité-là, elle est encore là. Même si, certes, on nous a dit, je me souviens aussi, il y a des moments où on nous dit « Oh, mais c'est bon, l'égalité des femmes-hommes, c'est bon maintenant, quoi !» C'est sûr, c'est sûr qu'il y a des avancées, c'est sûr qu'il y a plein de choses, et tant mieux, voilà, il y a plein de mouvements qui sont quand même en train qui se créent, qui se développent et tout, qui sont vraiment bien. Ça ne veut pas dire que culturellement, on est quand même, la société patriarcale, elle est là, et elle est, même si on ne le veut pas, elle est ancrée en fait, elle est tous les jours, elle est tout le temps là, et même si on est, enfin, même moi, je veux dire, je dis pas que, enfin, je me dis que même moi, je pense et je fais des choses qui je me dis des fois, mais non, mais attends, pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as fait ça? Enfin, pourquoi tu t'es mis dans cette situation? C'est... Ouais.
Il faut continuer à se battre, quoi.
Oui,
à se battre ou à s'éveiller, je pense, à conscientiser des façons de faire, des comportements de la part des femmes, nous, et des hommes, enfin, de tout le monde, en fait. Ouais, c'est ça.
Sans se culpabiliser, peut-être que c'est aussi parce que je... Alors nous, ce qu'on essaye de faire, on veut pas dire les hommes c'est méchant, c'est à cause de vous, etc., etc. Tu vois, c'est vraiment... Enfin, c'est pour ça d'ailleurs que c'est des paroles de femmes au début qui parlent aussi, c'est pour dire que vraiment c'est tout le monde. Mais c'est
un système, quoi.
C'est ça, et en fait, c'est pas dire que... Enfin, si je veux dire, si à un moment je dis un truc qui est sexiste ou qui est pas bien, faut pas que je me dise « Ah, je me flagelle, je suis mauvaise !» C'est plus dire « Ah merde, j'ai dit ça !» Attends, réfléchis pour que la prochaine fois, je n'ai pas à redire la même chose. Et pareil, si on le notifie sur quelqu'un ou sur une autre personne, de juste se dire « Ah bah merde, oui, j'ai fait cette action, mais en fait... » Enfin, oui, comme c'est éveillé sans culpabiliser, quoi, sans se dire que...
Toi, tu me disais tout à l'heure que tu voyais des enfants, en fait, enfin des...
Oui.
Je sais pas comment on dit, pré-ado.
Ouais, ado, pré-ado.
Pré-ado, enfin, bah, en plus de ça, j'embrasse tous les ados qui détestent qu'on les appelle. Je suis pas une ado, je suis pré-adulte. Lola, big up pour toi. Justement, est-ce que il va y avoir de l'avancée chez eux, tu penses, que parler des règles, etc., la place de la femme, enfin, je veux dire, on n'est plus dans le début des années 2000, on est dans les années 2020.
Oui, bah après, moi je dis, je fréquente des ados, je fréquente certains ados d'un milieu particulier, enfin voilà, un milieu aisé, tout ça. Ceux que je vois, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, il y a notamment deux jeunes femmes que je fréquente qui ont 17 et 19 ans et qui se respectent beaucoup, qui. Ouais, voilà, et comment.
Mais... plus éveillées que ce que nous on l'était,
oui,
à leur âge.
Exactement, voilà, c'est ça.
Et du coup, on a envie de se dire que c'est pas les seuls. Je pense que quand même, clairement...
J'ai entendu des conversations d'elles avec leurs copines et tout, qui me disaient « Oh, mais moi, je parlais pas du tout de ça à 17 ans, enfin, mais pas du tout. » Et c'est là ça qui me fait dire que ça avance par rapport à ça.
Je vais finir par une petite question un peu à la con. Comment on sent, juste avant de rentrer sur scène pour un spectacle pareil
On est stressé.
Bah en fait
qu'on va se prendre,
alors le stress d'accord, mais comment ça se gère et quel conseil vous donneriez
à
je pense que vous pouvez en donner quand même.
Respirer. Bon, moi, j'ai toujours le trac avant le spectacle. Hein. Après, on l'a joué plein de fois, donc on sait qu'on sait le faire. Enfin, on sait qu'on sait gérer les petits problèmes, les petits... voilà, après, oui, moi, j'essaye de me calmer.
Oui, en plus, on est quand même toutes les deux un peu speed, donc on essaye plutôt de se... Et puis de se dire que c'est pour s'amuser aussi. C'est ouais. Quand même, c'est ce qu'on se dit en fait quand même souvent avant de partir en disant bon on s'amuse quoi.
On s'amuse et on y prend va. Le temps. Surtout avec cette chaleur.
Ouais.
Ça c'est clair. Et vos regards dans tous les portraits de ça. Alors, j'ai eu l'occasion d'interviewer plein de gens qui faisaient ce genre de choses. Le regard, la complicité que vous avez, ce spectacle ne pourrait pas marcher si jamais vous l'aviez pas. Est-ce qu'elle est fausse ou alors est-ce que vous êtes vraiment complice?
Oh non, on se déteste. Mais non, on s'aime, c'est pour ça. Après, le spectacle a déjà joué où c'était pas moi. Moi, j'ai un petit bébé de 16 mois, enfin un grand bébé de 16 mois. Et du coup, je me suis fait remplacer et ça. Bon, avec une personne, Camille était complice. C'était une
ouais,
amie.
Ouais, c'était pas n'importe qui.
C'était pas n'importe qui. On a choisi quelqu'un quand même. Voilà, où il fallait qu'il y ait ce lien ouais. Fort. Oui, je pense que oui, ça joue beaucoup le fait qu'on se connaît très bien hein, depuis.
Oui, qu'on a écrit ensemble, qu'on a évolué ensemble parce que du coup, ça fait un moment qu'on. Enfin, ouais. on évolue dans nos vies de. C'est vrai qu'on s'est dit cette écriture, c'est de jeunes filles. On commence de plus être des jeunes filles non plus, quoi. Tu vois, donc. Enfin, en tout cas, il y a une période de vie qui s'est créée depuis et en fait, ça, on l'a vécu ensemble.
Ouais, c'est assez fort quand même.
Ouais.
J'ai pas envie de finir avec vous. Merci du temps que vous m'accordez parce que franchement, vous sortez du spectacle.
On est flatté d'être interviewé.
Attendez le résultat. C'est pas vous le problème, ça va être la radio le problème. Si la structure est à 8 mètres,
oui.
Toi, tu montes à combien?
La barre est à 4 mètres et après je vais à 8 mètres en balançant quoi.
Est-ce que t'as déjà fait monter des enfants là-haut?
Oui, en fait, en dessous de... C'est surtout avec le poids. En dessous de 10 ans, les poids-plumes, en fait, c'est vraiment galère de faire balancer parce que le trapèze, il est lourd, il a des poids sur le côté. C'est ça qui permet que le ballon reste un mouvement de balancier. Et du coup, pour les enfants, à pousser, parce qu'au début, tu peux les aider un peu avec la corde, mais après, faut... Et du coup, ça, s'ils sont petits, c'est dur. Mais les ados, on a fait au lycée, les ados, ils peuvent balancer avec sécu. Hein.
Ah bon mais... Bah non, il n'y a pas besoin de corde. De toute façon, on s'en fout, t'es attaché, c'est pas dangereux ce que tu fais. Est-ce que t'as peur des fois?
Oui. Oui, oui. Bon,
La première figure, ça a toujours peur. Je vais y aller, mais j'ai peur. Enfin, le dis pas en spectacle, mais.
Alors, tu parles pour Camille, mais toi t'assistes. Est-ce que t'as peur?
Oui.
Toi, t'es en bas?
Bah, moi, j'ai peur qu'elle tombe, enfin après en fait moi je fais la sécurité mais il y a une deuxième sécurité si je suis pas là elle tombe pas jusqu'en bas, il y a des il y a une sécurité en plus, mais oui je suis toujours je serre les fesses hein, en dessous. Non mais je suis toujours un peu stressée, enfin voilà je veux que ça se passe bien et elle est déjà tombée sur une représentation d'ailleurs
ouais.
Du coup dans cette figure là je me dis toujours ok c'est bon c'est passé.
Oui alors que moi celle là par contre ouais. J'ai pas peur. Enfin en fait c'est oui. En fait, en vrai, même quand on tombe, selon certaines figures, si on tombe mal, la ceinture peut faire vraiment mal. Mais celle-là, par exemple, je sais que j'ai pas trop peur parce que.
Après, je peux te gêner aussi avec la longe.
Oui,
faut que je fasse correctement parce que sinon, ça peut la gêner.
C'est tout autant la même concentration finalement qu'à Camille en fait.
Ouais. J'ai vraiment besoin d'elle, ouais. Faut qu'elle soit suffisamment là, mais pas trop, tout le temps.
Et donc, si les enfants ont envie de monter, tu leur dis n'ayez pas peur du vide, allez-y.
Non, on leur dit.
Non, ils montent avec. On les aide à monter en les tirant souvent, sauf si ça veut déjà monter à la corde. Et puis après, en fait, on fait souvent l'étape assis. Si selon les âges et tout, et selon comment je vois s'ils sont à l'aise ou non, on fait une étape de se mettre debout, voir si ça va. Souvent, la partie la plus compliquée, en fait, c'est de passer de dessous le trapèze à aller s'asseoir sur le trapèze, parce que là, en plus, faut se mettre passer par la tête en bas, etc. Et donc déjà, des fois là, je sens que ça va être compliqué. Et moi, je force pas. J'avoue que, en tout cas, sur, j'ai pas des cours réguliers, hein, mais sur quand je fais initiation, si la personne elle a pas envie, je vais essayer de voir jusqu'où ça peut aller. Je vais pas forcer jusqu'à dégoûter la personne. Puis c'est surtout qu'en plus, si la personne se retrouve vraiment à avoir peur là-haut et ne veut plus rien faire, c'est quand même dur de faire descendre en fait. Parce que t'es là, mais si la personne veut vraiment plus descendre, voilà quoi. Donc bon, on reste. Non, on reste.
Dans la limite quoi.
Ouais. Tu pousses un peu si tu sens. Enfin oui, c'est vraiment au feeling. Si je sens qu'il y a un peu cette hésitation, mais que ça peut y aller, on pousse un peu, mais sinon, ouais, non, je force pas.
La fin quand tu tombes. Enfin, quand tu tombes, quand tu lâches, tout le monde.
J'adore.
C'est un truc que tu ressens et du coup, ça te rebooste pour la fin du spectacle.
Oui, mais en plus, c'est assez fun à faire. En vrai, quand même, de sauter du trapèze, c'est quand même plutôt cool, quoi.
Eh ben, on va retenir ça, hein. Sauter du trapèze. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec nous.
Merci à toi.
Merci à toi, ouais.
À bientôt.
Oui. Ouais, avec plaisir.
Voilà pour ce reportage, excellent spectacle Femme au volant par la compagnie B-Side. Et c'est la fin de cette matinale, merci à toutes et tous de nous suivre. Sachez que mercredi soir, c'est le retour, la deuxième d'Open Bartas avec tous les copains et copines bénévoles de cette radio. Non, je ne vous dévoile pas le thème, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Et ben merci à toutes et tous de nous suivre. Restez bien sur Radio Bartas, on n'y est pas trop mal. Sachez aussi que cette semaine, il y aura la rediffusion du plateau qu'on a fait à la soupe, c'était vendredi dernier, et certainement aussi, soit cette semaine, soit la semaine prochaine, du plateau qu'on a fait pour l'inauguration du fournil des Vanelles. Et voilà, merci à toutes et tous. Et puis on se quitte avec un petit Chet Baker ce matin. Restez bien sur nos ondes. Bonne journée. À très vite. Ciao.
Attends, faut que je prenne mes lunettes. Je les avais rendues.
Les problèmes de vieux.
Radio Barthas en 7 FM, ça marche pour tous les âges.